Bonjour et bienvenue chez Jurygeek et compagnie, le podcast des enjeux du numérique pour les citoyens et les entreprises françaises. Moi, c'est Nathalie et dans cet épisode, je vous propose de découvrir le rôle de la fonction achat dans la recherche de souveraineté numérique dans le cloud. Qu'en est-il de l'interopérabilité, de la propriété des données? Quel est le rôle des achats dans la construction d'une stratégie cloud? Et surtout, dans tout ça, comment la commande publique pourrait-elle être un levier pour mettre en œuvre un souverainisme numérique? On découvre ça tout de suite. Pour ce faire, aujourd'hui, je reçois un invité d'exception, Sébastien Albert. Bonjour Sébastien, merci de nous avoir rejoints. Pourrais-tu te présenter, s'il te plaît?
Bonjour Nathalie, merci pour cette invitation pour parler du cloud et du souverainisme. Je suis acheteur depuis une dizaine d'années dans des entreprises autour du numérique, principalement dans le domaine des médias, mais aussi de la communication plus largement. Et j'interviens principalement en tant qu'acheteur sur des sujets, projets informatiques et numériques.
Alors, dis-moi Sébastien, dans la presse l'autre jour, j'ai lu un article qui relatait les coûts de sortie d'une prestation de service de cloud. Par exemple, si on souhaite quitter un prestataire pour opter pour une solution plus souveraine. Pourrais-tu d'abord nous clarifier les différents éléments qui constituent ce coût de service de cloud? À quoi ça correspond en fait?
Alors, c'est une vaste, vaste question. Il y a pas mal effectivement de coûts que l'on peut lister. Dans le cadre de prestations dans le cloud, on a effectivement tous les coûts qui sont liés à la phase projet pour la mise en place de cette infrastructure cloud, hein, donc des prestations assez classiques en termes d'architecture, en termes effectivement de conception, de développement, de déploiement. Hein, c'est principalement à ce moment-là des coûts humains, des taux journaliers, avec effectivement notamment des cabinets de conseil, mais aussi des entreprises de services numériques, hein, le nouveau nom des fameuses SS2I que l'on connaît tous. Après, on a une deuxième famille de coûts qui relève plus de l'exploitation en tant que telle, hein, donc qui sont principalement des coûts récurrents en fonction de ce que l'on peut consommer au quotidien. C'est une des magies du cloud, c'est qu'effectivement on a souvent des formules pay as you go, hein, donc payer uniquement ce que l'on consomme. Encore faut-il que l'on n'oublie pas d'éteindre les machines virtuelles, hein, puisque tant que ces machines virtuelles fonctionnent dans le cloud, on paye. Et donc c'est un premier coût caché que l'on peut avoir. Un deuxième coût caché que l'on oublie souvent, c'est que le cloud, ça doit se piloter, ça doit s'infogérer. C'est pas parce que c'est dans les nuages qu'il faut pas surveiller ce qui se passe. Et donc, du coup, on oublie très souvent que le cloud, il faut quand même un peu de pilotage. Alors certes, on a des outils qui sont mis à disposition par les différents cloud providers, hein, que ce soit GCP, que ce soit AWS ou encore Azure. Mais très souvent, on a besoin d'avoir des équipes dédiées, soit donc effectivement chez le client, soit donc chez un intermédiaire, hein, qui peut être un revendeur slash effectivement infogérant, et cela peut représenter un coût non négligeable. Autre coût caché dans le cadre de l'exploitation, c'est effectivement des coûts liés aux modèles économiques qui sont propres à chaque prestataire d'informatique dans les nuages. Les modèles économiques peuvent être un peu compliqués à comprendre et quelquefois on ne mesure pas que certains choix d'architecture, hein, le fait effectivement d'avoir deux centres de données à Francfort ou à Paris, par exemple, peuvent entraîner des coûts effectivement de transfert de données, d'interconnexion qui peuvent, comment dire, vite s'avérer un gouffre financier pour l'entreprise. Et enfin, une troisième catégorie de coûts, hein, dans le cadre d'un état des différents coûts dans le cloud, c'est effectivement en fin de contrat. Qu'est-ce qui se passe effectivement en fin de contrat? Mes données, comment je les récupère? Quelle est ma stratégie de réversibilité? Est-ce que mes données sont facilement exploitables? Est-ce que je peux effectivement les reprendre très facilement? En règle générale, là aussi, on a des coûts cachés, puisque très souvent, c'est pas forcément très cher de mettre les données en cloud, mais c'est plus pour les récupérer. On a effectivement des coûts cachés donc liés justement à cet export de données, sans oublier que outre les données qu'on doit récupérer, qu'est-ce qu'on fait de l'ensemble des machines virtuelles, des serveurs que l'on a dans ce cloud avec tous les développements qu'on a pu faire, puisque de temps en temps, les développements ne sont pas plug and play. Quand on veut passer donc d'un cloud A vers un cloud B, on peut avoir la nécessité, voire l'obligation de devoir tout redévelopper parce que ce n'est pas forcément les mêmes technologies d'un cloud A à donc à un cloud B. Et c'est pour ça que certaines entreprises et certaines directions du numérique assez matures très souvent essayent d'être agnostiques en termes de technologie par rapport aux différents cloud providers pour justement pouvoir basculer d'un cloud provider A vers donc un cloud provider B. Tout simplement, un, pour limiter les coûts le jour où ça arrive, mais surtout aussi dans le cadre des fameux plans de reprise d'activité ou de continuité d'activité. Aujourd'hui, on voit bien quand on a une panne géante chez un Google ou chez un Amazon, on voit tous les impacts que ça peut avoir pour des entreprises, que ce soit pour des fonctions internes, voire donc aussi pour des fonctions commercial avec une perte de business à la clé, et certaines entreprises ne peuvent pas se le permettre et donc développent une stratégie d'agnosticité sur les cloud providers pour pouvoir passer d'un cloud à un autre, voire même push le bouchon très loin, et sont capables de reconstruire assez rapidement l'ensemble de leurs infrastructures dans un nouveau cloud si le premier tombe en panne pour quelque raison que ce soit.
Alors tu viens d'indiquer, Sébastien, qu'on doit prendre en considération le facteur technologique quand on choisit un cloud. Ces offres de services sont assez diversifiées. Il peut s'agir de plateformes, d'infrastructures, de plus en plus des fonctions en tant que service. Ça doit également soulever, j'imagine, des problématiques de propriété des données, parce que finalement, quand celles-ci sont intégrées au cloud, elles sont brutes. Et à la sortie, on obtient plutôt des résultats, on parle même de données valorisées. Que pourrais-tu nous dire sur cette problématique en tant qu'acheteur ?
C'est une problématique qui est au cœur effectivement du business pour le cloud, qui pourtant était déjà une problématique qui existait depuis plusieurs années de mon point de vue, mais c'est vrai qu'avec le cloud, elle devient de plus en plus prégnante, hein, puisque aujourd'hui, on a tendance à voir dans les entreprises une externalisation d'un certain nombre de services dans le cloud. Or, effectivement, se pose la question de la propriété des données, de nos données que l'on peut confier à un acteur. Et finalement, quelle que soit la nationalité de cet acteur, hein, qu'il soit français ou non, puisque très souvent, voilà, on confie ces données à cet acteur, quelles sont les garanties que l'on peut avoir en tant que client, puisque très souvent on va demander à cette plateforme de pouvoir réaliser un certain nombre de traitements pour justement avoir des données de résultats, voire des données valorisées. Ce qu'on achète au final, c'est un résultat, c'est un service. Mais il faut quand même se poser la question de nos données, s'assurer qu'on reste bien propriétaire de l'ensemble des données, qu'elles soient brutes, mais aussi de résultats et qu'elles soient valorisées, et s'assurer même que l'ensemble des algorithmes, le cas échéant, ou des méthodes de calcul soient de notre propriété, puisque aujourd'hui, quand on va dans le cloud pour traiter des données, il y a différentes possibilités. Soit effectivement, on va donc dans le cloud pour justement avoir une capacité de calcul assez puissante pour justement traiter des bases de données de plus en plus grandes pour ne pas pour effectivement ne pas parler de big data, mais aussi on va demander des services liés à nos données autour de l'intelligence artificielle, autour du speech to text par exemple. Et là, du coup, c'est pas nous en tant que clients qui demandons comment dire, qui demandons ou en tout cas qui allons imposer les méthodes de calcul, les méthodes effectivement de traitement, mais c'est plutôt l'entreprise de service cloud qui va les proposer. Et là, du coup, qui sont les propriétaires des données finales? Qui a le droit de quoi sur l'ensemble de ces données? Et du coup, à l'issue de la restitution de ces données, est-ce que nos données sont bel et bien supprimées, écrasées de l'ensemble des serveurs? D'autant plus qu'aujourd'hui, on sait qu'une intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, a besoin d'être entraînée dans le temps pour être de plus en plus performante et qui nous dit que nos données ne vont pas servir justement à justement améliorer cette intelligence artificielle. Et dans quelle mesure, quelque part, on ne serait pas, comment dire, propriétaire de cette amélioration?
Alors en fait, Sébastien, quand tu demandes, a-t-on la garantie que nos données sont écrasées au moment de sortir du service, en fait, on n'a vraiment aucun moyen de le vérifier. On doit faire confiance à notre ex-prestataire.
Certes, c'est très compliqué de contrôler. Aujourd'hui, c'est effectivement, on peut contrôler un tiers qui héberge nos données, qui est effectivement un fournisseur, qui peut avoir pignon sur rue. Après, j'aimerais bien voir la faisabilité de ce type de contrôle ou de ce type d'audit avec des grandes entreprises, parce que voilà, ce n'est pas dans leur, comment dire, ce n'est pas forcément dans leurs habitudes, et je les vois mal. Me signer comment dire un PV de destruction, et même si elle signait ce PV de destruction, ce qui est une pratique qui peut se faire sur certains dossiers sensibles, ça ne garantit pas à 100% que l'ensemble des données ont bien été supprimées sur l'ensemble des serveurs, que ce soit des serveurs de production ou des serveurs de secours, puisqu'il ne faut pas l'oublier en général. Dans les infrastructures cloud, un des avantages de recourir à ce type de service, c'est qu'on a une infrastructure qui est souvent redondée. Donc avec des copies, alors soit, enfin, avec plus ou moins du temps réel, partout en France, voire dans le monde. Ce qui pose quand même la question de savoir si lorsqu'une donnée est supprimée, est-ce qu'elle est bien supprimée sur l'ensemble de l'infrastructure, que ce soit sur les serveurs, mais aussi sur toute la partie CDN, qui est l'infrastructure de distribution de l'ensemble des contenus.
Alors Sébastien, en tant qu'acheteur, tu connais particulièrement bien les clauses contractuelles dans les entreprises, maintenant en tout cas dans certaines entreprises d'une certaine taille. On a également un juriste dans les entreprises d'ailleurs où tu as exercé, il y avait des services juridiques. Il y a aussi maintenant un DPO, une DSI bien sûr. Donc au final, quel est le rôle de la fonction achat dans la construction de la stratégie cloud? Qui va faire tous ces choix? Qui pourrait relever d'un souverainisme numérique et comment ça se traduit au quotidien entre ces différents métiers.
Effectivement, Nathalie, c'est vrai que les achats, la fonction achat est très souvent au cœur de ces sujets informatiques et sur ces sujets de données, hein, sans parler du volet traitement et collecte des données à caractère personnel. Moi, de mon point de vue, la partie souverainisme est plutôt un sujet pour moi qui est porté par les directions des systèmes d'information et plus largement par les directions métiers. Direction opérationnelle par rapport effectivement à leur stratégie, par rapport au cadre réglementaire le cas échéant et par rapport aussi à la politique liée effectivement aux données. Quelles sont, voilà, quelle est la classification de mes données, comment effectivement je conserve mes données, comment je les héberge, comment je les sécurise au sens large du terme. Mais c'est par rapport à cette stratégie-là que va se mettre en place le souverainisme ou en tout cas une stratégie cloud qui soit beaucoup plus éclairée de ce point de vue-là.
À travers ton expérience étendue de la fonction achat, est-ce que tu as pu observer que la commande publique constitue déjà ou pourrait devenir un levier en tout cas pour atteindre cet objectif de souverainisme numérique?
Excellente, excellente dernière question, et Nathalie. Vraiment une question assez, assez difficile et qui revient assez souvent dans les débats politiques ou avec nos différents parlementaires. En 2021, il y a eu une commission parlementaire sur la souveraineté nationale et qui a donc auditionné la directrice des affaires juridiques du ministère de Bercy et qui listait à l'époque un certain nombre d'éléments pour montrer que oui, la commande publique avait en tout cas avait des moyens pour favoriser la préférence nationale. En revanche, ces moyens restaient assez limité. Je vais en citer quelques-uns pour juste te montrer qu'on est quand même très éloigné des sujets numériques, hein, puisque voilà, on peut donc développer la préférence nationale sur les marchés de, enfin, sur les marchés de, donc de défense et de sécurité en cas de menace grave pour l'intérêt général. A priori, sur ces deux points, l'informatique n'est pas forcément concernée. Ou encore, effectivement, la possibilité de pouvoir exclure des offres lorsqu'on a plus de 50% de produits importés de pays qui sont en dehors de l'Union européenne ou donc en dehors de pays avec lesquels la Commission européenne peut donc avoir des traités bilatéraux. Donc on voit bien que c'est assez restrictif, d'autant plus que cette possibilité d'exclusion ne concerne que les opérateurs de réseau, hein, donc notamment la partie SNCF, le groupe La Poste, et pour des marchés de fourniture. Donc là encore, on est très loin du sujet informatique et numérique, et la directrice des affaires juridiques de l'époque reconnaissait qu'effectivement la commande publique de ce point de vue était relativement limitée, et aujourd'hui on ne peut pas effectivement interdire à n'importe quelle société de candidater au seul motif qu'elle ne serait pas française ou qu'elle ne serait pas européenne. Si effectivement on devait interdire une telle société, on serait effectivement en défaut, on ne respecterait pas le droit de la commande publique en France, mais aussi le droit de la commande publique au niveau donc européen. En revanche, rien ne nous empêche de mettre en œuvre certaines stratégies pour développer le souverainisme, notamment effectivement en termes d'allotissement, en termes de sourcing, pour justement développer l'accès de la commande publique à nos PME. Justement, on s'aperçoit que les PME, en 2019, c'était 60% des marchés attribués en commande publique pour un volume qui ne représentait que 30% des 110 milliards qui étaient donc dépensés. Donc on voit bien la dichotomie entre la volonté de l'État de développer le business avec les PME versus la réalité du terrain, d'autant plus qu'aujourd'hui, on n'a pas de Buy American Act à la version française ou à la version européenne, et qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas une volonté politique forte au niveau de l'Union européenne, ça va être compliqué au niveau français de pouvoir mettre en place des mesures pour justement développer cette souveraineté ou en tout cas cette préférence nationale comme les Américains peuvent l'avoir depuis des années sur ce sujet. On a l'impression, Nathalie, que je te dresse un tableau relativement noir sur ce sujet. Pour autant, on a quand même quelques points de réjouissance à partager, notamment avec la réforme des CCAG, donc les cahiers des clauses administratives générales, hein, donc qui sont des textes de référence pour les marchés publics. La dernière mise à jour donc date de 2021, et dans cette mise à jour de 2021, d'avril 2021, on a un renforcement très net sur la partie données à caractère personnel, notamment hein, avec effectivement la possibilité d'avoir des pénalités En cas effectivement de non-respect par rapport aux obligations sur les données à caractère personnel, la possibilité aussi de résilier sur ce fondement. Effectivement, un marché public, hein, dès lors que le fournisseur ne respecte pas certains éléments sur les données à caractère personnel, et aussi un volet effectivement qui cite le règlement général sur les données à caractère personnel, avec la possibilité que l'acheteur puisse modifier de manière unilatérale cette clause en matière de données à caractère personnel en cas d'évolution notamment de la législation. Et enfin, dernier point, on a vraiment parlé là du corpus contractuel marché public, mais rien ne nous empêche aujourd'hui, dans nos contrats, dans nos exigences, dans notre cahier des charges, d'exiger un stockage effectivement détenu en France ou en Europe, mais aussi d'interdire la sortie des données vers des PCA. C'est un début effectivement vers le souverainisme, ce n'est pas suffisant, mais c'est un premier pas. Et toutes ces questions autour du souverainisme, elles sont importantes au regard du cadre de la commande publique, mais elles le sont aussi d'un point de vue acheteur, puisque attention à vouloir effectivement avoir des clauses potentiellement trop restrictives pour protéger nos intérêts, on risque aussi de passer à côté de pépites, qu'elles soient françaises ou non, et donc du coup de restreindre inutilement la concurrence et du coup de se retrouver pas forcément avec les acteurs les plus adaptés. Et c'est peut-être aussi à nous, en tant qu'acteurs de la commande publique, le cas échéant, de pouvoir faire émerger des pépites en France, comme peut le faire effectivement certaines administrations.
Eh bien Sébastien, il ne me reste plus qu'à te remercier infiniment pour ta présence aujourd'hui et ton éclairage à la fois technique et stratégique sur le cloud souverain en tant qu'acheteur. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Jurygeek et compagnie. Et d'ici là, longue vie et prospérité à toi.